France Inter.
Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1885, Louis Pasteur réalise la première vaccination contre la rage. L'histoire est entrée dans la légende. Le 6 juillet 1885, à Paris, une mère et son fils, arrivant d'Alsace, cette terre devenue allemande depuis la défaite de 1870, se présentent au domicile de Louis Pasteur. Le petit Joseph Meister, 9 ans, a été mordu à 14 reprises par un chien. Pour tous les médecins, il s'agit bien d'un cas de rage, une maladie terrifiante et alors incurable. Ils sont là car la rumeur se répand que Pasteur a mis au point un vaccin contre la rage. Pour l'instant, son vaccin n'a été testé que sur des animaux. Mais pour le savant, le cas Joseph Meister est l'occasion inespérée de pratiquer un essai clinique. Malgré les risques et malgré les réticences de son entourage, Pasteur ordonne les injections du vaccin au petit garçon qui sera sauvé. La première vaccination sur la rage est donc un succès pour Pasteur, qui tient enfin sa revanche sur ses adversaires, ils sont nombreux, et qui va mettre à profit cette victoire pour bâtir sa propre légende, celle du Français patriote et bienfaiteur de l'humanité.
France Inter, Stéphanie Duncan. Autant en emporte l'histoire.
Cédric Grimoud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien des sciences et l'auteur d'une biographie de Pasteur, intitulée simplement Pasteur, publiée chez Ellipse dans la collection Biographies et mythes historiques. Un mythe historique, est-ce qu'il y aurait un mythe Pasteur ? Avec ce livre, auriez-vous cherché, comme d'autres ont pu le faire, à déboulonner Louis Pasteur, notre héros national ?
Alors, je n'ai nullement cherché à le déboulonner, même si c'est vrai que j'étais assez critique envers sa personnalité au tout départ, parce que j'avais une connaissance superficielle du personnage. En revanche, il existe bien un mythe Pasteur.
Et c'est quoi ce mythe ?
Et c'est celui, comme vous l'avez dit, un savant géant qui découvre par lui-même et qui est bienfaiteur de l'humanité, qui est celui dont les découvertes sont immédiatement appliquées pour aider et même sauver l'agriculture française avec les vers à soie, l'industrie pour ce qui concerne les vinaigres et la bière.
Oui, parce que avant, donc l'histoire que je vais raconter commence en 1873. Il a alors 51 ans. Il a déjà une belle carrière. C'est un savant reconnu. Sur quoi jusqu'alors ont porté justement ses recherches, Cédric Grimoud, et quelles ont été ses principales découvertes ?
Dans trois domaines principaux. D'abord la chimie. C'est un chimiste de formation et il a découvert l'asymétrie de certains cristaux. Ça devient très vite très technique, donc je me permets de passer rapidement au deuxième sujet qui était la controverse majeure sur les générations spontanées.
Qu'est-ce que c'est ?
Beaucoup de physiciens, chimistes, naturalistes pensaient qu'alors la matière organique était susceptible de se réorganiser spontanément pour donner naissance à des êtres vivants très frustes, très simples, en fait ceux qu'on appelle aujourd'hui les microbes.
Oui.
Et Pasteur a montré qu'il ne pouvait pas y avoir de vie avant la vie et que donc la matière ne se réorganise pas comme ça spontanément. Il ne peut pas y avoir de génération nouvelle, hein, simplement des êtres vivants qui descendent d'autres êtres vivants par voie de reproduction, par voie de génération. Et puis le troisième domaine, c'est celui des fermentations qui ont donné tout de suite des applications pratiques, hein, par exemple pour purifier les productions de vinaigre ou encore améliorer la production de la bière, et qui est un enjeu aussi en 1870 et 71 quand l'Alsace donc, est prise par l'Allemagne. Il faut développer un secteur concurrent pour le marché français.
En 1873, on est aussi dans un contexte politique assez particulier. Vous venez de l'évoquer, Cédric Grimoud. Donc, la France a été amputée de l'Alsace et de la Lorraine. Pasteur a beau affirmer que la science n'a pas de frontières, il est quand même très germanophobe. Il ne parle que de revanche.
Alors, je serais pas tout à fait d'accord avec germanophobe, parce que par certains côtés, il admire l'Allemagne et la Prusse. Il a eu l'occasion de se rendre en Allemagne. Il avait d'ailleurs été professeur au début de sa carrière à l'université de Strasbourg, qui est quand même tout près de l'Allemagne à l'époque. Il a traversé en train. Il était très admiratif de l'industrie, de l'organisation prussienne, des chemins de fer allemands. Et au lendemain de la guerre franco-prussienne de 1870, il dit que la future revanche ne pourra se préparer qu'en prenant modèle sur la façon dont les Allemands ont spectaculairement progressé au XIXe siècle, et en particulier en accordant à la connaissance en général et aux sciences en particulier un rôle essentiel dans les universités et dans le domaine de la connaissance.
Oui, c'est la revanche qu'il veut avant tout.
Oui, ça, il est nationaliste et il est revanchard après 1870-71. Il dit aussi à quel point il sait faire le partage, justement, hein, entre les élites, les intellectuels allemands pour lesquels il peut avoir du respect, et la machine de guerre prussienne contre laquelle il est toujours vent debout.
Il était un bonapartiste, un partisan de Napoléon III, donc... Le Second Empire s'est écroulé en 1870.
Oui, il était fondamentalement conservateur, hein, sur le plan politique et social. Et puis Napoléon III avait reconnu sa valeur, l'avait invité à ses fameuses soirées de Compiègne. Et Pasteur ne cachait pas son admiration pour l'empereur et l'impératrice Eugénie. Il a été très affecté psychologiquement. Il a fait une petite déprime, hein, quand même, au moment de la chute de l'Empire. Cependant, il se reprend assez rapidement. Quelques semaines déjà après l'instauration de la République, il se rend compte que le régime n'est pas hostile aux savants, et il arrive à coopérer avec des éléments extrêmement progressistes de cette République pour développer ses propres travaux et faire avancer l'institutionnalisation de la recherche scientifique en France.
Cédric Grimoux, je propose qu'on se retrouve dans une trentaine de minutes pour poursuivre notre discussion. Nous allons voir comment, par quel chemin, Pasteur va en arriver à fabriquer son vaccin contre la rage. Tout de suite, 1885, Louis Pasteur réalise la première vaccination sur la rage, un texte de Vincent Hazard, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Aussire.
Je n'aime pas avoir à venir te chercher dans ton bureau.
Pardon Marie, je termine le courrier pour Paul Bert au sujet de ma pension de retraite. Tu penses pouvoir le recopier de ta belle écriture dans l'après-midi ?
Mais qu'est-ce que c'est encore que cette idée farfelue ?
Marie, je t'en ai déjà parlé.
Tu veux finir ta carrière sur ton projet de fabrication de bière ? Tu veux qu'on se souvienne de toi comme d'un simple brasseur ?
Marie...
C'est pas digne de toi d'abandonner comme cela. T'as encore beaucoup de choses à découvrir.
Marie ne se fâche pas souvent avec moi. Mais cette fois, je sens qu'elle est touchée par ma décision. J'aimerais que mon ami Paul Bert soutienne ma demande de retraite d'État. Une pension que je pourrais lui transmettre, ainsi qu'à nos enfants, à mon décès. Je ne me sens pas encore mourant. Mais ces dernières années m'ont effectivement bien éprouvé. Et rappeler que personne n'est immortel.
1873. Louis Pasteur, savant renommé pour son procédé de pasteurisation, chimiste reconnu et directeur de l'École normale supérieure, envisage de mettre un terme à sa carrière. Il se sent diminué après une attaque cérébrale survenue 5 ans plus tôt qui lui rend ses déplacements difficiles. De plus, les années 1860 lui ont pris 3 de ses 5 enfants. Très affecté également par la défaite contre l'Allemagne et la perte de l'Alsace-Lorraine, Pasteur, le patriote, est depuis dans un état d'esprit sombre et revanchard. Il concentre ses travaux sur la fermentation de la bière pour permettre aux brasseries françaises de rivaliser avec leurs concurrentes allemandes. Il développe une nouvelle bière qu'il nomme la bière de la revanche. En 1873, il ne se voit plus faire de découvertes scientifiques significatives.
Je comprends suffisamment ton travail sur les bactéries pour mesurer ce que tu as accompli. Tes découvertes sont révolutionnaires. Et tu ne dois pas t'arrêter là. Tu as encore toutes tes capacités.
Mais j'ai 51 ans.
Je suis trop vieux. D'autres ont déjà repris le flambeau.
Je ne crois pas. Et au fond de toi, tu sais que tu es loin d'avoir terminé tes recherches.
De quoi parles-tu ?
Pourquoi refuses-tu de t'attaquer aux maladies humaines ? Ces fléaux qui frappent les hommes et qui font tant de victimes. C'est là que ton travail prendra toute sa signification. Tu as l'intuition que ces bactéries sont à l'origine de maladies, alors pourquoi t'arrêter maintenant et refuser d'essayer de nous en débarrasser ?
Parce que je suis chimiste, pas médecin.
Avec ta notoriété, tu peux très bien t'entourer des meilleurs médecins. Tu n'as rien à leur envier.
C'est plus compliqué que tu ne le crois. Les médecins ne m'aiment pas. Ils pensent que mes travaux de chimiste empiètent sur leur domaine, la santé.
Comme tu voudras. Je vais recopier ta lettre au député. Mais je pense que tu regretteras rapidement ta décision. Tu n'es pas fait pour la retraite. Réfléchis.
Comme la plupart des femmes de son époque, Marie Pasteur n'a pas fait d'études poussées, mais elle compense ce manque par une solide intelligence. Mariée à Louis depuis 1849, elle vit dans son ombre et assure non seulement l'intendance du couple, mais aussi la promotion du travail du grand homme. Fin 1873, Pasteur écoute ses conseils et intègre l'Académie de médecine en tant que membre associé. Il entre alors dans un milieu de spécialistes qui se méfient de ce scientifique qui mène ses recherches en laboratoire. On parle beaucoup d'hygiénisme à l'Académie, avec des savants reconnus internationalement, comme le chirurgien anglais Joseph Lester, qui est devenu l'ami de Pasteur.
J'ai suivi vos conseils, Monsieur Pasteur, en plus des mesures antiseptiques habituelles. Depuis que nous appliquons des mesures d'hygiène sur nos instruments et que nous nous lavons soigneusement les mains, nos opérations d'amputation obtiennent de bien meilleurs résultats. Nous sommes passés d'une mortalité de 65% à 15%.
C'est très encourageant, mon cher Lister. J'applique ces mesures à moi-même, vous savez.
Oui, j'ai remarqué que vous ne me serrez jamais la main.
Ne le prenez pas mal. En tout cas, vos résultats sur la chirurgie antiseptique sont une très bonne nouvelle pour la médecine de guerre. Sur le front, les amputations sont monnaie courante. Et maîtriser ces techniques permettra de sauver beaucoup de nos soldats.
Vous pensez encore à faire la guerre à l'Allemagne ?
Un jour, nous devrons bien reprendre l'Alsace et la Lorraine.
Dans ce cas, je ne sais pas si je dois vous parler des dernières découvertes qui nous viennent de Prusse. Je m'apprêtais à le faire.
J'ai appris à faire la distinction entre les scientifiques et les barbares en casque à pointe. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, il m'a été rapporté la nouvelle la plus extraordinaire au sujet de la maladie du charbon. Un petit médecin allemand vient de publier un article dans lequel il expose ses résultats. Il a identifié la bactérie responsable de la maladie. Son étude est tout à fait remarquable.
Et comment s'appelle ce savant ?
C'est un inconnu, un dénommé Robert Koch.
Robert Koch, un médecin de campagne d'à peine 31 ans, installé en Silésie. Depuis des mois, après ses consultations, il travaille dans son cabinet médical. Le 27 octobre 1876, Koch réussit à isoler de manière empirique la bactérie responsable de la maladie du charbon. Il la nomme Bacillus anthracis. La maladie du charbon décime les troupeaux de bovins et d'ovins depuis des décennies dans toute l'Europe. Cette grande découverte scientifique, pourtant, rend Pasteur furieux.
Ce médecin n'a aucune expérience, aucune méthode. Ses travaux ne démontrent rien du tout. Son protocole n'est pas correct. Il n'a pas pris la précaution d'isoler sa bactérie pour prouver sans équivoque qu'elle est bien responsable de la maladie. Il a travaillé uniquement avec des échantillons prélevés sur des animaux morts. Il se peut que ce soit une autre bactérie qui soit responsable, une bactérie qu'il n'a pas détectée. Il va trop vite en besogne. Et il ne cite pas ses sources. À aucun moment, il n'a cité mon travail qui a forcément dû l'inspirer. Cela fait des années que j'affirme que les bactéries ont un rôle important dans le développement des maladies. Il n'a fait que reprendre mes théories. Décidément, ces Allemands n'ont aucun scrupule.
Aussitôt, Louis Pasteur décide de reprendre lui-même les expériences de Koch. Pour cela, il met un terme à ses travaux sur la fermentation de la bière et en janvier 1877, il obtient des crédits du ministre de l'Instruction publique pour permettre à son laboratoire de se lancer dans l'étude des maladies infectieuses. C'est sur le choléra des poules que Pasteur fera ses premières avancées significatives sur le principe de la vaccination. En 1879, il découvre par hasard un moyen d'atténuer la virulence des souches de virus. deux de ses assistants oublient des cultures et partent en congé. À leur retour, les bactéries du choléra de la poule ne sont plus létales. Au contraire, une fois injectées, elles immunisent le sujet. Pasteur utilisera désormais ce principe pour ses recherches sur d'autres maladies infectieuses, comme la maladie du charbon.
Alors, docteur Roux, que voyez-vous dans cet échantillon de sang prélevé sur un animal contaminé ?
Je vois les petits ronds qui sont les globules rouges. Mmh. Et puis des bâtonnets, qui sont les bactéries responsables du charbon, je suppose.
C'est exact. Maintenant, regardez cet autre échantillon. Voilà.
Je vois que sur celui-ci, les bâtonnets sont très allongés. J'en déduis que la maladie est plus avancée.
C'est juste.
Mais que sont ces points noirs qui apparaissent dessus ?
Ce sont des spores qui vont permettre à la maladie de se redévelopper plus tard dans un autre organisme.
C'est ce qu'a observé Koch. Les spores qui se retrouvent ensuite dans le sol et infectent d'autres animaux.
Oubliez Koch deux minutes. Il ne sort pas de son laboratoire. Sur le terrain, qu'est-ce que l'on constate ? Que les propriétaires des vaches ou des moutons contaminés enterrent les cadavres des bêtes dans leurs champs. Et c'est cela qui cause les champs maudits, où la maladie réapparaît périodiquement sur de nouveaux troupeaux.
Tout cela est très intéressant en théorie. Dans la pratique, nous avons fait des prélèvements et nous n'avons rien trouvé.
Ce dernier échantillon, avec les spores, vient du champ que nous avons étudié.
Comment est-ce possible ? Il n'y avait pas de spores dans les autres.
Cet échantillon est un peu particulier. J'ai ramassé des tortillons de terre rejetés en surface par des vers de terre là où des animaux morts ont été enterrés, vous comprenez ?
Ah !
Ce sont les vers de terre qui font remonter les spores. C'est pour cela que le champ n'est pas systématiquement contagieux. Voilà la chaîne de contamination.
Évidemment. Expliqué comme cela, c'est beaucoup plus clair.
Il faut comprendre la logique de la propagation de la maladie. Koch ne va pas au bout des choses et se contente de faire quelques expériences dans son laboratoire.
Vous êtes encore en train de pester contre le jeune docteur allemand ?
Bonjour, Madame Pasteur.
Bonjour.
Je te présente Émile Roux, le jeune médecin qui va travailler avec nous.
Enchanté. Justement, je voulais vous annoncer que vous allez pouvoir tester votre vaccin contre le charbon sur le troupeau de Monsieur Rossignol à Pouilly-le-Fort.
Ah.
La Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne vient de donner son accord.
Parfait. Mon cher Émile, nous allons vacciner la moitié du troupeau de Monsieur Rossignol et ensuite nous allons injecter la maladie du charbon à l'ensemble des bêtes. Nous allons montrer l'efficacité du principe de la vaccine. Nos bêtes vaccinées survivront.
Et vous allez sacrifier 25 bêtes non vaccinées.
C'est pour la science, madame.
J'espère juste que le père Rossignol sera bien indemnisé.
Le 5 mai 1881, Louis Pasteur fait injecter à 25 moutons une première dose d'un vaccin constitué de bacilles de la maladie du charbon affaiblie par des conditions de culture particulières. 12 jours plus tard, il leur fait injecter une seconde dose, puis le 31 mai, il fait injecter une dose de bacille virulent à l'ensemble du troupeau. Louis Pasteur peine à supporter la pression de l'attente des résultats et rentre à Paris dans son logement de la rue d'Ulm. Le lendemain soir, les nouvelles tombent.
Louis, je viens de recevoir le télégramme d'Émile.
Le contrôle des résultats donne tous les moutons non vaccinés décédés dans les 24 heures après l'inoculation de la maladie. Mais on compte une brebis malade parmi les 25 vaccinés.
C'est formidable ! C'est un franc succès !
Marie est trop enthousiaste. Une bête est malade. Si elle meurt, toute la presse m'attendra au tournant. L'effet pourrait être catastrophique sur nos recherches en France et dans le monde. Il y a même un journaliste du Times qui a fait le déplacement.
Alors, tu as des nouvelles ?
Oui, Louis. C'est bon. Ce matin, le mouton vacciné est guéri. Succès épatant nous fait savoir Monsieur Rossignol. Ils vont mettre une plaque à ton nom et renommer la ferme le Clos Pasteur.
Les résultats de l'expérimentation de Pasteur sont très bien accueillis à l'Académie de médecine. dans les semaines qui suivent, la demande pour le vaccin contre le charbon explose. Des dizaines de milliers de moutons, vaches et chevaux sont vaccinés dans toute l'Europe. Pasteur est promu Grand Croix de la Légion d'honneur. Sa notoriété dépasse les frontières de la France et son ami, le chirurgien anglais Joseph Lester, l'invite à Londres pour le Congrès international de médecine. Le 8 août 1881, il arrive au St. James Hall et reçoit une ovation des 7000 participants.
Quel accueil! Le président du Congrès m'a fait demander par Lister si je pouvais donner une conférence impromptue sur mes derniers travaux. Je suis flatté. Et je ne manquerai pas de citer les travaux des Anglais. Lister pour l'hygiénisme et évidemment Jenner, le précurseur de la vaccination.
Qu'est-ce qu'un organisme microscopique inoffensif ? C'est un être qui ne peut se développer dans le corps de l'animal qui l'héberge. Mais rien ne prouve que, si cet être microscopique venait à pénétrer dans une autre espèce, il ne pourrait l'envahir et la rendre malade. Sa virulence, renforcée alors par des passages successifs dans les représentants de cette espèce, pourrait devenir capable d'atteindre l'homme. Par cette méthode, on peut créer des contagions nouvelles. Je suis très porté à croire que c'est ainsi que sont apparues, à travers les âges, la variole, la syphilis, la peste ou la fièvre jaune, et que c'est également par des phénomènes de ce genre qu'apparaissent, de temps à autre, certaines grandes épidémies.
Suite à son intervention, le prince de Prusse vient en personne féliciter Pasteur. Touché, le savant français se laisse même convaincre par Lister d'assister à une présentation de son rival, Robert Koch.
Sous ce microscope, nous plaçons de la lumière et nous pouvons prendre ainsi la photographie de ce que nous regardons. Pour illustrer la démonstration, je vous ai apporté des photographies que j'ai fait développer avant de venir vous voir. Vous pouvez distinguer les bâtonnets blancs qui sont donc les bactéries du charbon.
Comment avez-vous obtenu autant de contraste?
Ah, nous utilisons un colorant pour mettre en avant les bactéries.
Les microbes, hein? Il me semble que l'on peut les qualifier ainsi désormais.
Microbes, oui. Ce nouveau mot me paraît intéressant.
Votre système de photographie est un grand progrès et je dois aussi vous féliciter pour vos travaux.
Merci, monsieur Pasteur. C'est un honneur de recevoir un tel compliment de la part d'un précurseur comme vous.
Précurseur. Tu parles. Pourquoi pas vieillard sénile pendant qu'il y est?
Ce qu'il t'a dit ressemble quand même beaucoup à un hommage à ton travail.
Oui, il a été froid comme un teuton, sans aucune expression quand il m'a dit cela. Non. Ce séjour à Londres a été très décevant.
Tu m'as pourtant écrit que tu avais été accueilli avec les honneurs.
Oh, tu parles. L'hôtel était glacial. La nourriture, je t'en parle même pas. Et puis, tu avais oublié de mettre ma brosse à dents dans ma valise.
Effectivement. J'imagine qu'il est impossible d'acheter ce genre d'ustensiles en Angleterre. Ils sont aussi arriérés que les Allemands, n'est-ce pas?
La rancœur de Pasteur monte d'un cran lorsque le 24 mars 1882, Robert Koch annonce publiquement avoir identifié le bacille responsable de la tuberculose. Il s'agit d'une découverte majeure qui suscite un immense espoir. Cette maladie, en effet, tue 80 000 personnes par an en France à cette époque. Depuis le tout nouvel Institut de recherche bactériologique de Berlin, Robert Koch donne son nom à la bactérie tueuse, le bacille de Koch. Quelques mois plus tard, en septembre 1882, Pasteur retrouve son rival au Congrès de Genève.
Le comité directeur du Congrès de Genève a appris que je passais mes vacances dans notre maison de famille du Jura et ils m'ont convié avec Marie à venir faire une communication sur l'atténuation des virus. Cette intervention n'a pas grand intérêt. Mais je vais saisir cette occasion pour répondre à Koch, qui s'acharne à critiquer mon travail sur la vaccination de la maladie du charbon.
En résumé, après ma démonstration, pas une seule des critiques du docteur Koch ne reste debout. Elles n'ont fait que mettre en lumière une foule d'erreurs et d'inexpériences que leurs auteurs ont amassées dans leur recueil allemand.
Ah, pardon.
Les rapports.
Qu'a-t-il dit que leur recueil allemand. Mais c'est une attaque personnelle inqualifiable.
L'ami de Koch, qui lui traduit le discours de Pasteur à l'oreille, se trompe et transforme les mots « recueil allemand » en « orgueil allemand ». Koch, scandalisé, refuse de répondre à son intervention. Leur rivalité atteint son paroxysme et devient une affaire personnelle. Koch publie 3 mois plus tard un nouveau pamphlet critiquant les résultats de Pasteur sur le charbon. En 1883, les deux rivaux se retrouvent sur une mission d'étude. Une épidémie de choléra se déclare en Égypte et menace de se répandre en Europe. Louis Pasteur obtient un financement du gouvernement français pour y envoyer une mission d'étude. Son assistant, Émile Roux, assure les derniers préparatifs.
Nous sommes prêts. Les caisses de matériel ont embarqué pour Alexandrie. Nous serons les premiers sur place.
J'aurais tellement aimé me joindre à vous.
Ça n'aurait pas été raisonnable.
Mais cette attaque cérébrale m'a définitivement privé de ces grandes aventures. Mais je serai avec vous en esprit. Docteur Roux, Louis Tuillier vous secondera. Il est jeune, mais très motivé. Et surtout, ne vous exposez pas au virus inutilement. Il est extrêmement virulent. Et tant qu'on ne connaît pas son mode de transmission, il faut être très prudent.
C'est entendu. Nous ferons très attention.
Je le sais. Mais il ne faut pas m'en vouloir. Vous êtes un peu mes enfants.
Le 8 août 1883, l'équipe d'Émile Roux et Louis Tuillier prend la route pour l'Égypte. Quelques jours plus tard, Koch débarque lui aussi à Alexandrie et y installe une mission de recherche allemande. Pour tenter de comprendre les mécanismes de transmission, les Français étudient le virus sur des animaux. Mais les essais sont infructueux, le choléra ne semble affecter que l'homme. L'épidémie se termine d'elle-même avant que les savants ne puissent faire des découvertes. Mais le 19 septembre, le malheur frappe la mission française. Le jeune Louis Tuillier meurt du choléra en seulement quelques heures. La mission est aussitôt rapatriée en France.
Comment vous sentez-vous ?
Ça va. Personne d'autre n'a développé de symptômes.
Pourquoi vont-ils garder son corps aussi longtemps ?
Les autorités égyptiennes veulent le mettre en quarantaine. Cela prendra plusieurs mois.
Plusieurs mois.
Oui.
Nous formons tous une équipe. Je ne connaissais pas Tuillier depuis très longtemps. Mais j'ai l'impression de perdre un fils.
Je crois pouvoir parler au nom de tous les collaborateurs et vous dire que nos sentiments envers vous sont réciproques.
Si seulement j'avais été présent.
Monsieur Pasteur, vous n'avez rien à vous reprocher. C'est arrivé si soudainement.
Que s'est-il passé exactement ?
On ne sait pas. Nous sommes revenus de la mission l'après-midi. Tout allait bien. Louis était souriant. Et puis, il a été pris de violents maux de ventre. Nous avons d'abord pensé à une indigestion. Il a été emporté en quelques heures, sans que nous ne puissions rien y faire.
C'est terrible.
Je dois dire que... la mission allemande nous a été d'un grand soutien. Robert Koch et ses élèves sont venus nous témoigner de leur amitié. Ils ont même aidé à porter le cercueil de Louis. Ils nous ont réconfortés en disant que Louis avait été un grand serviteur de la science.
Je suis un peu surpris, mais touché par l'attention de Koch et de ses collaborateurs. Ce qu'ils ont témoigné à l'équipe de Roux était plus qu'un simple hommage. C'était... une preuve d'humanité rare. La reconnaissance que nous œuvrons tous pour les mêmes buts, que nous faisons partie de la grande communauté de la science, quelle que soit notre origine.
Robert Koch, qui a poursuivi ses recherches sur le choléra en Inde, réussit en février 1884 à isoler le bacille. Il confirme aussi son mode de transmission par les eaux usées. En juin de la même année, une épidémie de choléra se déclare à Toulon. Pasteur y envoie Émile Roux, mais les autorités françaises lui préfèrent l'équipe de Robert Koch pour procéder à l'identification de la maladie. Sur place, Coq parvient à limiter la contagion en préservant l'eau potable, ce qui lui vaut d'être décoré par Jules Ferry. Louis Pasteur, rongeant son frein, décide de concentrer ses efforts sur une autre maladie emblématique.
Mais pourquoi t'intéresses-tu à la rage ? Cette maladie est horrible et elle tue beaucoup moins que le choléra ou la tuberculose.
Justement, la rage occupe une place particulière dans l'imaginaire collectif. La mort qu'elle entraîne est terrifiante.
C'est dangereux, Louis. À force de côtoyer des singes, vous pourriez vous faire mordre par accident. Vous prenez des risques inutiles.
Ne t'inquiète pas, le risque est contrôlé. La rage est l'une des rares maladies où nous allons pouvoir obtenir des résultats de guérison après contamination. Avec notre niveau de connaissance, nous sommes cantonnés la plupart du temps à accompagner les épidémies et faire de la prévention. C'est ce que fait Coq.
Encore lui, il t'obsède.
Il perd de vue la raison pour laquelle nous travaillons. Vaincre la maladie. Là, avec la rage, le combat n'est pas seulement dans la prévention. C'est un combat frontal.
Comment comptes-tu faire ?
L'énorme avantage que nous avons est que la maladie ne se déclare que plusieurs semaines après la morsure. Si on injecte un vaccin assez tôt, il empêchera la maladie de se développer. S'il te plaît, j'ai besoin de toi pour notre installation au domaine de Villeneuve-l'Étang. Il nous faut une centaine de chiens pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions.
Je vais voir ce que je peux faire. Mais les communes environnantes de Saint-Cloud, Ville-d'Avray, Garches et maintenant Vaucresson ont tout écrit au Sénat pour demander l'interdiction de ton arrivée avec des chiens enragés.
Il faudra pourtant bien faire ses recherches. Je compte sur ton charme et ta plume pour convaincre les sénateurs.
En mai 1884, Louis Pasteur présente un article sur la rage à l'Académie des sciences puis à l'Académie de médecine. Une commission de la rage est alors mise en place par le ministère de l'Instruction publique pour surveiller ses travaux. Pasteur est finalement autorisé à installer son chenil à Villeneuve-l'Étang, en région parisienne. Début 1885, son collaborateur, Émile Roux, fait part de ses propres découvertes au grand savant.
Pour la conservation du virus, j'ai eu une idée.
Oui.
Il suffit d'ajouter de la potasse dans le bocal où se trouve la moelle épinière, sur laquelle se trouvent les bactéries. En asséchant, on évite le pourrissement et on ne fait qu'affaiblir le virus, ce qui est parfait pour développer un vaccin efficace.
Parfait. Nous allons pouvoir constituer des doses de différentes virulences en fonction du nombre de jours laissés à sécher. C'est très malin, Docteur Roux.
Merci, Monsieur Pasteur.
Je suis maintenant sûr que nous sommes sur la bonne piste. Mais une chose m'inquiète. Je n'arrive toujours pas à voir cette satanée bactérie au microscope. Comment être sûr de vaincre quand on combat un ennemi que l'on ne voit pas.
Pasteur recherche une bactérie, alors qu'en réalité, la rage est un virus, au sens moderne du terme, beaucoup plus petit et invisible. Il faudra attendre 1963 pour que le virus de la rage soit enfin observé à l'aide d'un microscope électronique. Pasteur fait alors transmettre le virus à des lapins et le cultive sur leur moelle épinière. En les desséchant, il obtient plusieurs degrés de virulence qui permettent d'injecter des souches de plus en plus fortes à des chiens dans le but de les immuniser. Les essais se révèlent concluants, mais Pasteur hésite à tester son vaccin sur des humains. Pourtant, des dizaines de lettres affluent de toute la France pour le supplier de sauver des victimes mordues par des renards ou des chiens enragés.
Tu ne vas pas pouvoir continuer tes expérimentations sur les chiens encore longtemps, tu sais. En plus des communes avoisinantes, ce sont maintenant les associations de protection des animaux qui protestent. Tu tues des chiens par dizaines.
On ne peut pas travailler autrement. Ce sont des expérimentations qui permettront de sauver des milliers de vies humaines.
Je sais bien, mon cher, mais la pression populaire risque d'avoir raison de la logique scientifique. Il va vous falloir obtenir des résultats.
Si mes essais sur les chiens suscitent de l'émoi, imagine ce qu'il se dira quand je vais faire des essais sur l'homme. Oui, j'ai demandé à l'empereur du Brésil, qui est un admirateur de mon travail, de nous fournir des condamnés à mort de son pays. Comme ça, nous pourrions expérimenter sur des volontaires qui n'auraient rien à perdre.
Comment ça ?
Si des prisonniers survivent, ils seront graciés.
Mais tu n'y penses pas ? Je t'interdis de faire une telle proposition.
J'ai déjà envoyé la lettre.
Eh bien, Louis Pasteur, je ne te félicite pas. J'espère que l'empereur aura la clairvoyance de ne pas donner suite. Oh !
L'empereur Pedro II du Brésil ne donne effectivement pas suite. Et le 6 juillet 1885, un événement va faire sortir Louis Pasteur de sa réserve.
Oui, désolé de vous déranger en plein travail.
Vous ne nous dérangez pas, Madame Pasteur.
Que se passe-t-il ?
Une femme et son enfant se sont présentés au domicile. L'enfant a été mordu par un chien enragé.
Oh non, pas encore. Ces situations sont terribles.
Louis, ces gens ont parcouru des centaines de kilomètres pour te voir. Ils sont venus d'Alsace.
L'Alsace ? Ils ont passé la frontière allemande ?
Tu devrais au moins les recevoir.
Bien. Je veux bien recevoir la mère, seule.
Je ne pense pas que cela soit une bonne idée.
Émile, je vais la renvoyer, mais il faut savoir faire preuve d'humanité. Cette femme a fait tout ce chemin, c'est la moindre des choses de la recevoir. Entrez, entrez. Asseyez-vous. Voici le docteur Émile Roux, c'est mon plus proche collaborateur.
Bonjour, monsieur.
Madame.
On vous a offert une collation ?
J'ai pas faim, mais merci.
Bon. Votre enfant a été mordu il y a combien de temps ?
Avant-hier.
Il a été diagnostiqué ?
Oui, hier soir à l'hôpital, le docteur m'a dit que Joseph allait avoir la rage.
Joseph. Et quel âge a Joseph ?
9 ans, monsieur. Il a été mordu en allant à l'école par le chien du père Vonnet, l'épicier, qui a ensuite été battu à mort par les gendarmes parce qu'il avait la bave qui lui coulait. Il avait la rage, quoi.
Et vous êtes venue aussitôt. Vous avez d'autres enfants, Madame Meister ?
Oui. Je les ai laissés à ma sœur au village. 3 filles et 2 garçons, avec Joseph, ça fait 3 et 3. Mais je ferai pareil pour les 6 s'il fallait.
Madame, je suis admiratif de votre dévouement pour Joseph.
Les docteurs nous ont dit qu'il allait mourir. Ils ne voulaient pas nous donner votre adresse au début. Ils nous ont dit que vous ne pourriez rien faire. Mais vous connaissez ces maladies. Vous êtes un grand savant qui avait beaucoup de remèdes pour sauver les gens. Il se dit que vous avez un remède contre la rage. S'il vous plaît, il faut sauver mon fils.
Le remède n'est pas prêt, madame.
Ça veut dire que vous n'allez pas le soigner ?
Nous pourrions peut-être... sans aucune garantie que cela marche...
Monsieur Pasteur.
Oui, évidemment, je suis prête à tout pour sauver Joseph.
Nous pourrions lui injecter le vaccin que nous avons testé pour l'instant sur des animaux, mais jamais sur l'homme.
Monsieur Pasteur, ce n'est pas raisonnable.
Il faut que vous compreniez que le risque sur Joseph est énorme. Il pourrait développer la maladie directement, ou même mourir.
Mais de toute façon, si on ne fait rien, il va mourir, n'est-ce pas ?
C'est très probable. Oui.
Monsieur Pasteur, je pense qu'il faut réfléchir encore. Ne prenez pas de décision hâtive.
Bon. La décision est prise. Madame Meister, et il va falloir que vous restiez à Paris pendant au moins 2 semaines. Le temps que nous fassions les injections.
Merci, monsieur Pasteur. Merci, merci, merci.
Contre l'avis d'Émile Roux, qui refuse de participer, Louis Pasteur fait injecter au jeune Joseph Meister 13 doses de moelle de lapin contenant le virus, de plus en plus virulent, sur une période de 11 jours. Mis sous observation pendant plusieurs semaines, il reste en bonne santé et en sera éternellement reconnaissant aux équipes de Pasteur. Joseph Meister rejoindra même l'Institut Pasteur en 1912 pour y travailler comme gardien. En octobre 1885, Louis Pasteur réitère la vaccination sur Jean-Baptiste Jupille, un berger de 15 ans. Profondément mordu par un chien enragé qui avait attaqué 6 autres petits bergers, Jupille est également sauvé. Cette fois, la nouvelle se répand dans le monde entier. Ce formidable succès fait entrer Louis Pasteur dans la légende.
Tu n'as pas l'air réjoui, Louis. Le succès de la vaccination contre la rage est mondial. Des dizaines de patients affluent chaque jour pour être soignés et nous sommes en train de mettre en place la production en masse du vaccin. Ça y est, tu as réussi.
Oui. C'est formidable. Et ton idée de mettre en avant la vaccination du jeune Jupille pour les journalistes était une brillante idée.
Oui. Le grand scientifique sauvant le jeune héros qui s'était interposé entre ses amis et un chien enragé. Une histoire forte comme la presse les aime. Alors quoi ? Que t'arrive-t-il ?
C'est rien. Ce soir, je me sens un peu là. Je ne peux m'empêcher de penser aux autres.
Aux autres ?
La petite fille que nous avons tenté de vacciner en novembre.
Ah, la petite Louise Pelletier.
Elle avait 10 ans.
Louis, elle était condamnée, tu me l'as dit toi-même. Elle avait été mordue trop longtemps avant qu'on ne te l'amène, et la maladie s'est déclarée le lendemain de sa vaccination. Tu as essayé de la sauver, mais cela n'aurait rien changé. Tu ne dois pas te sentir responsable.
La mort, surtout celle d'enfant, m'est devenue insupportable. Je suis désolé, je ne suis pas de bonne compagnie ce soir, je vais lire un peu avant de me coucher.
Tu sais, Louis, je suis fière de toi.
Merci, Marie. Tu es un roc. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans toi.
Je viens d'apprendre que Coq est attaqué pour avoir annoncé avoir trouvé un remède contre la tuberculose qui se révèle inefficace. Je déplore ce qui lui arrive. La presse a tiré des conclusions hâtives en inventant un remède miracle, alors que Coq lui-même ne souhaitait pas le qualifier ainsi. Nous sommes, malgré nous, exposés à une forme de célébrité, respectueuse en général, mais qui peut vite tourner en suspicion. Nous ne devons pas simplement découvrir, inventer. Nous devons aussi convaincre que nous œuvrons pour le bien de l'humanité.
En 1885, Louis Pasteur réalise la première vaccination contre la rage de Vincent Hazard avec Louis Pasteur, Jean-Christophe Quenon, Marie Pasteur, Juliette Poissonnier, Émile Roux, Thomas Harel, Joseph Lester, Kester Lovelace, Robert Koch, Rainer Zivert, Marie Meister, Hortense Mansaint-Jean. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Antoine Vieussat et Titouan Labarre, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Cédric Aussire. Vous écoutez Autant d'emporte l'histoire sur France Inter, on reprend dans quelques minutes la discussion sur Pasteur avec mon invité Cédric Grimoud, mais tout de suite, l'escope, l'hiver sur tes lèvres.
Je sentais l'hiver sur tes lèvres, à chaque fois que je t'embrassais, moi je rêvais. Mais la mer montait autour de nous, un air froid depuis longtemps s'installait. Je croyais l'été encore là, mais la neige tombait. Je sentais l'hiver sur tes lèvres et puis partir comme un secret. Je vivais toujours dans un
I'm
France Inter, Stéphanie Duncan, autant on emporte l'histoire.
Cédric Grimoux, on se rend compte à quel point le combat de Louis Pasteur dans ses différents domaines de recherche, et en particulier celui du vaccin contre la rage, a été rude. Il fallait être un véritable colosse, ne pas douter pour convaincre et affronter toutes ces oppositions. Elles ont été très nombreuses tout au long de sa vie. Justement, les médecins, par exemple, qu'il ne l'aimait pas, parce qu'il empiétait sur leur domaine.
Oui, et puis parce qu'il les prenait de front. Mais d'une manière générale, les chercheurs en sciences doivent affronter des oppositions multiples parce que, par définition, la découverte conduit à lutter contre des idées anciennes qui sont déjà bien ancrées, qui ont bénéficié justement d'un système d'enseignement et que, par nature, l'esprit humain tend à défendre un peu coûte que coûte.
Même donc, parmi des savants.
Ah ben oui, même je dirais presque surtout parmi les savants. Toute la carrière de Pasteur s'est construite justement avec autour de grands affrontements presque épiques, avec des grandes pointures, hein, Justus von Liebig pour la biochimie, Marcelin Berthelot dans le domaine des générations spontanées, les microbes notamment sur le vignoble.
Oui, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure sur la génération spontanée, qui était extrêmement, cette théorie était extrêmement ancrée dans les esprits jusqu'à la fin du 19e siècle.
Jusqu'à ce que Pasteur fasse la démonstration, même on pourrait dire les démonstrations successives dans tous les cas de figure possibles. Et pour ça, Pasteur a deux atouts immenses par rapport aux autres chercheurs. D'abord, il organise sa recherche comme une industrie. Il est peut-être celui qui systématise le recours à l'expérimentation à une échelle jamais vue jusque-là. C'était Claude Bernard qui avait théorisé dans les années 1860 le rôle de l'expérimentation pour l'exploration des nouvelles idées, évidemment le fait d'apporter la fameuse preuve. Mais lui, Pasteur, il expérimente sur des dizaines, en réalité, de procédés en même temps, à la fois en variant les procédés et en gardant les mêmes. Et c'est comme ça qu'à la fin, il peut dire qu'il est sûr, parce qu'il a envisagé tous les cas de figures possibles et imaginables. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il s'entoure d'une équipe. Louis Pasteur, c'est la figure de proue, mais en réalité, d'un ensemble de chercheurs qu'il a lui-même formé ou sélectionné avec le plus grand soin, et que la postérité n'a pas forcément...
Oui, parce qu'ils sont un peu restés dans l'ombre aussi du héros.
Et ils se sont parfois volontairement effacés, aussi pour que Pasteur soit celui qui, dans les médias, va faire savoir, va faire connaître, etc. L'autre élément que Pasteur a découvert dans une étape précédente de sa carrière, c'est la possibilité de réaliser un milieu de culture spécifique pour chaque micro-organisme. Et c'est ça qu'il reproche aussi à Robert Koch. Hein. Ce n'est pas le tout d'observer un microbe dans un organisme affecté par une maladie. Parce qu'en fait, il y en a plein d'autres. Et ce microbe, il peut changer d'aspect, comme avec les spores, hein, au cours de son cycle de reproduction, par exemple. Pasteur maîtrise les milieux avec un minimum d'ingrédients dans lesquels il peut purifier les cultures. Et c'est comme ça que quand il envoie un échantillon en disant cette fiole, cette éprouvette va communiquer le charbon ou le choléra des poules, il est absolument affirmatif, sûr de lui, et il entraîne la conviction de gens qui au départ étaient très réticents. L'Académie de médecine, encore une fois, était effectivement un lieu très partagé par rapport aux découvertes de Pasteur.
À propos du vaccin contre la rage, je vous propose d'écouter Joseph Meister, qui est interviewé en 1938 à l'occasion des 50 ans de l'Institut Pasteur. Il va raconter aux reporters les difficultés rencontrées par sa mère donc, quand elle est venue demander au médecin l'adresse de Pasteur à Paris.
Nous voici maintenant, mes chers auditeurs, à l'Institut Pasteur, à proximité du boulevard Pasteur, dans ce quartier dont toutes les rues portent les noms des plus illustres disciples du maître. La loge du concierge est occupée par un alerte sexagénaire qui est lui-même un personnage fameux. C'est Joseph Meister, dont le nom est étroitement lié à la découverte du vaccin contre la rage.
C'était en 1885. À cette époque, M. Pasteur avait beaucoup d'ennemis, surtout dans le monde médical. Dans les hôpitaux, on refusait de me donner son adresse et l'on voulait me garder pour me soigner. mais ma mère insista tellement qu'on finit par nous envoyer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm où travaillait M. Pasteur. M. Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait.
Vous avez donc, en quelque sorte, servi de Kobe, le premier Kobe humain, à Pasteur. Et à vous voir, aujourd'hui, encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi.
Il a en effet parfaitement réussi, et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage.
C'est donc Joseph Meister, interviewé en 1938, celui qui a été sauvé de la rage par Pasteur en pleine forme, on l'a entendu, mais il va mourir 2 ans plus tard, en 1940, juste après l'arrivée des Allemands à Paris. Alors, on l'a entendu, hein, il dit, il reconnaît qu'il a servi de cobaye, comme on disait à l'époque, un cobaye aujourd'hui pour Pasteur. C'est une expression un peu difficile. Enfin...
Et pourtant, il faudrait que chaque auditeur se rende compte que lorsqu'il suit un traitement médical, et en particulier à l'hôpital, il est en même temps inscrit dans un registre, même si c'est anonyme, pour les suivis des effets, et que c'est grâce à l'accumulation extraordinaire de ce patrimoine d'expérience qui augmente année après année, que l'on peut mieux soigner les générations futures.
Quand on a des nouveaux médicaments.
Et donc nous sommes tous, d'une certaine façon, des cobayes, parce que la médecine et la science continuent d'apprendre grâce à nos réactions individuelles, par exemple pour les effets indésirables, rares, de certains médicaments pourtant très connus. Bon, voilà, donc en fait, cette dimension expérimentale est intrinsèque à la recherche et notamment à la médecine depuis qu'elle est devenue scientifique.
Et vous l'avez dit, Cédric Grimoult, le savoir-faire, donc le génie scientifique de Pasteur ne suffisait pas. Il a fallu aussi le faire savoir, c'est-à-dire que Pasteur est un grand communicant, sa femme aussi. Louis Pasteur va élaborer sa propre légende, donc pour lui, pour la recherche, pour la France.
Voilà, pour les trois.
Et pour financer peut-être l'Institut Pasteur bientôt.
Bien sûr. De deux manières, c'est-à-dire que d'abord, il a été très tôt un excellent pédagogue, utilisant des modèles, par exemple en bois, des molécules qu'il étudiait. Il n'hésitait pas à descendre dans l'arène de l'Académie de médecine pour dessiner au tableau noir la forme des microbes qu'on devait observer dans telle ou telle contamination. Et puis deuxièmement, par la mise en scène véritablement théâtrale devant la presse internationale de ses découvertes.
Et c'était nécessaire pour le financement de l'Institut Pasteur ?
Oui, et c'était nécessaire aussi pour faire progresser plus rapidement les idées novatrices dans les esprits. En général, hein, les historiens des sciences considèrent qu'il faut 20 à 30 ans pour qu'une grande théorie supplante ses prédécesseurs. Et Pasteur a incontestablement accéléré le tempo de la recherche avec des conséquences essentielles pour l'hygiène et la médecine.
L'histoire que j'ai racontée donc, s'est terminée par une note mélancolique malgré la victoire donc, de Pasteur avec le vaccin contre la rage. Il s'inquiète des oppositions au vaccin, c'est une inquiétude toujours d'actualité.
Voilà, et bien sûr que la crise Covid l'a révélée au grand public. Alors, il y a deux dimensions. Hein. D'une part, le fait que l'administration de la preuve dans le domaine médical est souvent compliquée et les réussites ou les échecs de la vaccination, parce que dans certains cas, évidemment, il y a un pourcentage de ratés, mais c'est surtout que c'est une démarche statistique et que la pensée statistique et probabiliste n'est peut-être pas assez enseignée en France et ailleurs. Et de toute façon, elle est de maniement complexe. D'autre part, il faut prendre en compte la crainte de l'autorité, de la parole d'autorité qui vient des institutions.
Merci beaucoup Cédric Grimoult. Je conseille vivement la lecture de votre biographie passionnante, biographie de Pasteur, parue dans la collection Biographie et Mythes historiques chez Ellipse. C'est la fin pour ce soir de Temps n'emporte l'histoire, qui était réalisé par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin, à la technique Julien Chabassu. Vous pouvez vous abonner au podcast d'Autant n'emporte l'histoire sur l'appli Radio France, où vos commentaires, comme toujours, sont les bienvenus sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Dimanche prochain, nous serons en compagnie d'un des plus grands artistes du XXe siècle, Salvador Dalí. En 1929, à Cadaqués, en Espagne, ce jeune homme de 25 ans se donne à corps perdu dans la peinture. Mais pendant l'été, un groupe de Français vient perturber sa tranquillité quasi monacale. Des Français, mais surtout une femme d'origine russe, Gala, qui deviendra la femme de sa vie. Gala et Dalí valsent avec la folie. C'est dimanche prochain à 21h sur Inter.